Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand débat.
À 8h43 avec Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, et Emmanuel Le Chypre, on va parler salaire. Est-ce que vous avez été assez augmenté cette année? Mais on va d'abord parler coupure d'électricité parce que Emmanuel Macron est très fâché. Écoutez-le.
Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver malgré la guerre, et donc je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les centrales, le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification, le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Les scénarios de la peur, pas pour moi.
Emmanuel Le Chypre, il a raison, il y a des gens qui ne font pas leur travail.
Oh non, il a à peu près tort sur tout dans cette intervention. C'est... D'ailleurs, non mais il y a une règle en général qui est qu'un président ne parle pas depuis l'étranger.
Mais il est très énervé,
des
là.
Problèmes français.
Il peut pas se
et
retenir.
On comprend pourquoi. Parce que ça ne lui fait dire que des bêtises. Parce que quand il est en Albanie, il n'est pas du tout dans le mood français, dans le contexte français, dans l'état d'esprit français, et il est donc à côté de la plaque totale. Il est à côté de la plaque totale parce qu'on a l'impression qu'il n'a rien appris de la gestion des premières semaines de la crise sanitaire, quand on nous disait, mais dormez braves gens, il va rien se passer, les masques, pas de problème, etc. Et on s'est aperçu que c'était pas vrai. Là, il nous refait le même coup, dormez braves gens, il va rien se passer. Et puis, franchement, personne ne croit qu'il ne va rien se passer. Et puis en plus, il décrédibilise complètement ses ministres, alors que globalement, la chorale gouvernementale fonctionnait plutôt pas mal, en nous disant, oui, il y a des risques. Deux, il y a moyen d'éviter les coupures si on a tous des comportements responsables, ce qui, de la part d'un gouvernement, n'est pas quand même crié au loup de façon exagérée. Donc, franchement, dans son intervention d'hier, je trouve que tout est raté.
Et quand il tape sur les entreprises publiques? Quand tu tapes sur EDF, sur RTE, sur Enedis,
bah c'est toujours pareil. C'est des techniciens qui font leur métier, qui ne font pas de politique. Et alors on s'est aperçu qu'effectivement, même dans ces grandes entreprises publiques, la compétence d'un porte-parole est quand même relativement peut-être limitée, parce qu'un vrai porte-parole
d'une
grosse boîte qui est politique,
le pauvre Laurent
il
aurait
peut-être pas fait, mais il a dit la vérité. Ouais. Concrètement, Enedis, ils sont pas capables de cibler un appartement pour couper ou pas l'électricité. Donc, que ces malades qui risquent d'avoir des problèmes, eh bien, leurs problèmes soient pris en charge par les autorités médicales. C'est-à-dire qu'on se dise, bah, s'il y a des coupures, on déplace ce monsieur, on l'envoie à l'hôpital pendant quelques jours. Enfin, ça, c'est pas le boulot d'Enedis, vous voyez.
Benoît Serre, je serais curieuse d'avoir votre avis de DRH sur le cas de ce porte-parole d'Enedis qui prend quand même toute la crise énergétique sur le dos depuis
oui,
hier.
Oui.
Même Elisabeth Borne l'aurait appelé, c'est ce que racontaient les Échos ce matin. Est-ce qu'on peut être viré quand on raconte la vérité?
Je ne sais pas si on peut être viré, mais je pense qu'effectivement il a une phrase maladroite et en même temps il a dit la vérité. Et c'est plutôt pas mal d'avoir un porte-parole qui dit la vérité, mais quelquefois la vérité n'est pas bonne à dire. En l'occurrence, où elle a été mal exprimée. Non, vous n'avez pas viré quelqu'un pour ça, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est des postes, surtout dans les entreprises publiques en ce moment d'énergie, c'est très compliqué, parce que vous avez surtout la pression politique. Alors, comme le dit Emmanuel, ce type-là, son métier, c'est l'électricité, il connaît, il sait comment ça marche. Enfin, la politique, c'est pas son métier, quand même. Donc c'est vrai que c'est des situations de tension. Alors, sans doute, peut-être qu'il y a eu une petite erreur. Souvent, quand vous êtes confronté à quelque chose où vous savez que vous allez vous prendre une crise, vous avez quand même toute une préparation en disant, voilà, les questions qu'on peut avoir, c'est ça, les situations qu'on peut avoir, et vous préparez. J'imagine que cette réponse-là n'avait pas été préparée.
Alors vous, comment vous préparez la crise et éventuelle coupure d'électricité? Vous êtes chez le Réal. Comment on fait le jour où on nous dit il n'y aura pas d'électricité pendant 2 heures?
On est en train de regarder, parce que il y a le côté, bon, on est prévenu la veille à 17h, mais c'est chaque individu, donc nous on va être prévenu avant. Ça veut dire que vous devez réagir vite. Pourquoi? Pas parce qu'on va couper l'électricité, mais parce que, par exemple, il s'avère que là où je travaille, c'est une tour où il y a 16 étages. Or, vous coupez l'électricité, il n'y a plus d'ascenseur. Moi, DRH, je ne peux pas prendre la responsabilité d'avoir le risque de quelqu'un qui monte dans l'ascenseur et qui reste coincé pendant 2 heures. Donc, vous voyez, il faut s'assurer, par exemple, que les systèmes de sécurité vont continuer à fonctionner. Il faut s'assurer un certain nombre de choses qui ne sont pas directement liées à l'électricité elle-même, mais au fait que vous êtes un bâtiment accueillant du public, et donc vous avez la responsabilité pénale d'assurer leur sécurité.
Donc, on ferme.
Donc, en fonction de la manière dont ça se passe, vous regardez les différents scénarios. Est-ce que je ferme? Est-ce que je dis aux gens de rester en télétravail? Est-ce que, en tout cas, je peux pas faire rentrer des gens en prenant le risque qui se retrouve dans une situation de danger personnel.
Et ça, c'est vraiment short notice, parce que la veille à 17h, pour des salariés qui vont arriver au travail le lendemain à 7, 8, 9...
Bah, un petit peu comme pour le porte-parole d'Enedis, on prépare les différents scénarios possibles, ouais. Et en disant, voilà, donc, si jamais on a une information à 17h, comme quoi le lendemain c'est fermé à partir de midi pendant 2h, bah, quelle décision on prend? Est-ce qu'on appelle tout le monde ou on envoie des messages? On leur dit, restez chez vous. On est en train de regarder les différents scénarios possibles, et puis on avisera.
Préparer des scénarios, c'est pas paniquer, c'est pas la même chose.
Non mais c'est ça qui est effectivement compliqué, il y a une nuance, c'est-à-dire que préparer des scénarios, ça n'est pas faire des probabilités sur effectivement l'occurrence de l'un ou de l'autre des scénarios. On n'a pas dit il y a 70% de chances que le scénario du pire se produise ou pas. Le problème, c'est qu'on est obligé d'avoir des scénarios puisque la palette des situations résulte de la combinaison de plusieurs paramètres. Donc le paramètre météo, le paramètre météo au sens large, c'est-à-dire soleil ou pas soleil, vent ou pas vent, froid ou pas froid, de la consommation, des besoins, de la disposition, de la disponibilité des énergies, etc. Et que par définition, on ne peut pas faire de prévision. Donc oui, on envisage des scénarios.
Alors, une info qui va faire plaisir aux patrons et aux DRH que vous êtes, Benoît Serre, ce matin, c'est l'étude d'Alixio qui dit que le compte y est, que finalement, les entreprises ont augmenté les salaires en proportion de l'inflation, si on ajoute les primes, les différents avantages, que les entreprises ont fait le job. Je ne sais pas si ça va vous servir dans la NAO, mais en tout cas... Non,
Alors pour ce qui nous concerne, la NAO, elle a déjà eu lieu. Mais c'est intéressant, je l'ai vu, cette étude d'Alixio. En fait, le problème, c'est qu'on parle beaucoup des endroits où ça s'est mal passé. Mais quand vous regardez, au global, ça s'est plutôt pas mal passé. Ça a négocié, ça a trouvé des solutions. Selon la taille de l'entreprise, ses capacités financières ou autres, c'est plutôt aller sur l'augmentation générale, dans d'autres cas, sur la prime. Mais l'un dans l'autre, vous arrivez à trouver des solutions. Ça prouve bien que quand le dialogue social se situe au plus près de l'entreprise et qu'il n'est pas, entre guillemets, politisé, ça se passe bien. On l'a vu sur d'autres sujets. Vous avez vu que le nombre d'accords qui ont été passés sur le temps de travail, etc., est considérable cette année.
Les accords juste sur les salaires, c'est plus 30%. Ben voilà, donc, déjà, par rapport à l'année.
Mais tout ça pour dire que, contrairement à ce qu'on entend, le dialogue social de terrain, je ne parle pas au niveau national, de terrain, il se passe extrêmement bien et on trouve des solutions. Alors c'est vrai qu'on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure.
Et ça veut dire partout, sauf dans les entreprises semi-publiques et chez Total, quoi, en gros. En gros.
Alors là, ce qui se passe en ce moment, effectivement, les trains n'arrivent pas trop à l'heure en ce moment sur la SNCF, j'ai l'impression. Ah. C'est vrai qu'ils démarrent leur NAO, c'est un modèle de dialogue social un peu particulier avec ce qu'on appelle des grèves préventives, c'est-à-dire qu'ils font la grève avant même que la décision ait été donnée. Pourquoi pas, c'est un choix de dialogue social. Dans beaucoup de boîtes, ça a beaucoup discuté, ça a été difficile dans des PME. C'est pour ça que notamment la fameuse prime Macron, prix pouvoir d'achat, elle a été pas mal utilisée, parce qu'elle a un avantage, c'est qu'elle ne vous crée pas de la charge définitive et récurrente. Ouais. Et honnêtement...
Elle n'a jamais été utilisée au niveau de 6 000 euros, c'est-à-dire qu'on est plutôt autour de 1 000, 2 000.
Vous êtes entre 700 et 1 000 à peu près, selon les entreprises.
Emmanuel, est-ce que le compte y est pour les salariés aujourd'hui?
Alors, il y sera sur 2 ans. Et en fait, il se passe exactement ce qui se passe à chaque fois qu'un choc inflationniste se produit dans un grand pays. C'est le FMI qui a regardé sur les 50 dernières années plus entre 25 et 30 cas finalement de choc inflationniste, et ils ont regardé l'impact que ça avait sur les salaires. Un, ils ont commencé par démonter l'idée de la fameuse spirale prix-salaire, et ils ont dit en fait ça ne se produit quasiment jamais. Et en fait, ce que montre le FMI, c'est qu'en général, quand vous avez un choc inflationniste, il y a un rattrapage sur à peu près 2 ans. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Parce que on a souvent en tête juste le rythme de l'inflation, mais ce qu'il faut voir, c'est le niveau de prix dont on part. Or, si vous avez cette espèce de courbe en cloche que va faire l'augmentation de l'inflation, il faut bien voir que finalement, on va arriver 2023 avec des niveaux de prix à la consommation qui vont être à peu près 10 à 15% plus élevés que ce qu'ils étaient en 2019-2020. Or, qu'est-ce qu'on voit? C'est que entre les augmentations de 2022 qui vont tourner autour de 4-5%, les études elles disent toutes à peu près la même chose, et celles qui sont prévues pour 2023, vous aurez grosso modo ce rattrapage à peu près de 10%. Donc oui, sur 2 ans, le choc inflationniste, il aura bien été absorbé et compensé par l'augmentation des rémunérations.
Avec juste un point quand même, on sort d'une situation un peu différente, puisque souvent, en raison de la crise Covid, en 2020-2021, beaucoup d'entreprises, notamment les petites, n'ont pas augmenté les salaires du tout. Mmh. Alors qu'en règle générale, vous avez des décalages de 1%. Donc il y a un petit décalage qui peut se créer à certains endroits, parce que le point de départ est plus bas. En fait.
Et puis l'autre bémol, c'est qu'on était avec Jacques Fressel, le président de la Fédération du commerce et de la distribution qui nous disait que dans l'alimentaire, on ne parle pas de 10 ou 12% de hausse sur les deux ans, on parle de 12% de hausse cette année et peut-être, c'est ce que demandent les industriels, 15-20% de hausse l'année prochaine quand même. Hein. C'est la perception du coup de l'inflation chez les Français.
Mais sauf qu'il faut rappeler que l'alimentaire, en gros, si vous voulez, pour faire très simple, les hausses de prix à deux chiffres, en gros, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'alimentaire, c'est l'énergie. Ouais. Ça n'est que 25% de notre budget mensuel.
C'est ce qui se voit pour les Français.
Oui, mais c'est ce qui se voit. Mais ce que je veux dire, c'est que sur l'ensemble, ensuite, du panier de consommation, voilà, il faut quand même relativiser. Et puis, les prix alimentaires, il faut bien voir que la hausse, quand vous regardez tout ce qui vient des signaux, des matières premières, etc., tout est extrêmement encourageant. Quand vous regardez les récoltes de céréales, par exemple, aujourd'hui, elles sont extrêmement bonnes pour l'année qui vient. Donc, il n'y a pas dans les produits alimentaires, hormis tout ce qui est transport, énergie, etc., sur la matière première elle-même, il n'y a pas de raison que les mauvais scénarios de 2022 se reproduisent en 2023.
L'autre sujet RH dans les entreprises, c'est la pénurie de main-d'œuvre, les problèmes de recrutement. 12% des entreprises, c'est ce que nous dit Alexios ce matin, réfléchissent à la semaine de 4 jours pour pallier à ce problème. Vous en pensez quoi, vous, Benoît Serre?
Alors, c'est toujours la question. D'abord, est-ce que c'est la semaine de 4 jours avec ou sans télétravail? Parce que si vous faites une semaine de 4 jours avec 2 jours de télétravail, vous ne voyez plus grand monde quand même. Donc, il faut. Non, mais c'est vrai. On ne voit pas comment on pourrait.
Non, mais là, c'est 4 jours, on arrête, quoi. C'est-à-dire qu'on fait 35 heures sur 4 jours.
Mais par exemple, ce matin, c'est une entreprise qui pose des fenêtres, par exemple.
Voilà. Alors après, c'est vrai que la semaine de 4 jours, si on prend sur un plan individuel ou court terme, c'est assez séduisant, finalement. Sur un plan moyen terme, moi, je suis plus prudent que ça. Parce que j'observe quand même qu'on fait 35 heures en 4 jours. Donc, on va essayer de caser en 4 jours ce qu'on fait en 5. Ça a deux effets. Un premier effet, vous avez les gens qui sont en surchauffe. Et le deuxième effet, c'est que vous allez tuer encore un peu plus ce qu'on appelle les moments inutiles de management. Tout le monde va courir tout le temps, quoi. Et je suis pas sûr que ce soit bien parce qu'on s'est rendu compte pendant cette crise et avec le fait que le télétravail est revenu quand même à 2 jours par semaine maximum, que le rôle de lien social de l'entreprise, il est très important. Donc, je comprends très bien le
côté séduisant. On a besoin de perdre du temps un peu.
Mais exactement, on a besoin d'un peu de perdre du temps dans les couloirs. L'autre point, et qui est plutôt positif, c'est que pour le moment, personne ne parle de légiférer sur le sujet comme ils ont fait en Belgique ou ailleurs. C'est très important de ne pas le faire pour pouvoir rester au niveau de l'entreprise parce que selon vos activités, vous avez des entreprises où ça va très bien s'adapter parce que leur charge fait que, ou leur activité, et d'autres où ça va être une catastrophe. Donc, pour le
mais
moment,
chez L'Oréal, c'est non.
Je pense qu'il faut être prudent. Bah, pour L'Oréal, on a jusqu'à 2 jours de télétravail, 5 jours, et ça paraît